Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. On est là, il va être bien enflammé encore aujourd'hui, Rotten sans flamme. Grande émission, beaucoup d'actu, comme d'habitude. On est gâté. Alors, par l'actu, alors il y a des régions, ça fait plaisir, d'autres un peu moins. On est bien entouré pour parler de tout ça, et puis pour rire aussi en votre compagnie. Appelez vos amis, on sera encore plus nombreux. On est là jusqu'à 20h comme tous les soirs avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Ça va, un grand merci à tous ceux qui apprécient cette opération à vie de recherche. C'est un carton.
Ah, un carton. Et ce soir, il y en a qui sont sur le grill. Alors, on va vous dire qui est sur le grill ce soir. On est avec Benoît Cossil. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut tout le monde, très heureux de ne pas être dans la vie de recherche.
Ah ouais, bah t'as raison.
Bon, allez, on se le réserve pour l'année prochaine.
Ouais. Doucement, doucement.
Eh oui.
Ah bah oui.
Ouais. Vie de recherche.
On patientera alors.
Non, mais t'en fais pas. On a Benoît, on est bien accompagné. On a un ministre avec nous, vu comment il est habillé aujourd'hui, c'est incroyable. C'est Manu Petit. Salut Manu.
Bonsoir messieurs,
salut Manu.
Bonsoir mesdames.
Tu es magnifique Manu.
Bah, je me suis habillé en circonstance. Puisque c'est apparemment
ah, c'est la vie de recherche.
Je suis sur l'échafaud aujourd'hui.
Ah,
donc
sur le gris.
Je vais m'habiller sur mon 30 ans.
Non, sur l'échafaud, non, sur le
si
gris.
Je dois mourir, ce sera avec dignité.
Bah ouais.
Attends, voilà. Dirait Monseigneur.
Non, mais t'es magnifique.
Justement.
Allez voir ça sur les réseaux sociaux.
Si Ligue 1 Plus cherche un nouveau patron, je suis dispo.
Mmh. Ah, bah justement, on en parlera. Ça fait partie des sujets qui seront abordés.
Je te vois bien
dans
là-bas.
Dans ce soir.
Ah, ouais.
Tu m'imagines.
Ah, mais là, je te vois bien là.
Ouais. Ouais, c'est clair.
Par bon, les gars. Apparemment, quand on dit des insultes avec un costume, ça passe
pas. Ouais, insultes. Ah, là, franchement, t'es crédible pour y aller.
Messieurs, on est très attentifs.
Je te vois bien à côté de Vincent Labrune. Bon, Vincent, reste assis. Hop, tu bouges pas.
On est très attendus ce soir. Il y a beaucoup d'actualités. Elle sera traitée dans Rotten sans flamme avec Jérôme Rotten, avec Manu Petit et avec Ben Costil. Mais l'autre événement, c'est donc Avis de recherche.
RMC, Avis de recherche.
Avis de recherche spécial Manu Petit ce soir, 19h25 sur RMC. Les retrouvailles en direct entre Manu et plusieurs personnes qui ont marqué sa vie. Si jamais c'est votre cas, ben venez le dire au 3216 sur le numéro WhatsApp 0612 424 424. Ça a bouleversé votre vie lorsqu'il a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde 98.
Ah d'accord.
Ça a créé des émotions.
Ça veut pas dire que je les connais nécessairement.
Incroyable. Ah bah si. Si vous l'avez vraiment rencontré, okay. Que ça a changé votre vie, vous venez nous dire.
Ça a changé ma vie aussi moi.
Ah bah ça arrive parfois, okay. Tu verras. Il y a quelques surprises réservées.
Ouais,
des bonnes, des mauvaises.
Manu, je te dis tout de suite. Ils ont pris des risques. Après, moi, je.
Pas de vie privée, je vous l'ai déjà dit, les gars.
Non, mais ils ont pris des risques.
Alors, oui, mais c'est toujours la question, où est-ce qu'on fixe la limite de la vie privée?
Bah, j'en parle pas de ma vie privée, donc la limite, elle est là, tu vois.
D'accord.
Bah, ouais. Bon, je vous l'avais dit.
Alors, on verra, mais bon.
Non, je vous l'avais dit.
Non, en revanche, Manu, si ça se passe mal et que t'es pas à l'aise, on comprend avec la personne.
Pour aller de la vie
ça passe
Manu,
mal, je suis mal à l'aise. Tu vois la caméra là derrière toi, là.
19h25, avis de recherche sur Manu Petit. N'hésitez pas, 32-16, si vous avez des anecdotes, on les attend.
C'est un grand moment, je vous le dis.
Les autres sujets, c'est l'Olympique de Marseille.
Pas là à l'époque, j'ai
forcément.
Pas la caméra ici, tu vois.
On va parler de l'OM tout au long de cette émission, notamment à 19h. Qui doit succéder à Roberto De Zerbi, puisque la démission a été, ou plutôt le licenciement, a été acté la nuit dernière par l'OM, communiqué du club. On sera avec Fabrice Hawkins pour les différentes pistes explorées. On vous attend, supporters marseillais, au 32-16. À 18h30, on fera le procès de la direction de l'OM qui n'apprend pas de ses erreurs. Là, on a deux procureurs et un avocat. Vous verrez, ce sera un grand procès ce soir. Et puis, l'autre actualité de ce début de soirée, c'est donc tout ce qui se passe à la Ligue de football professionnel. La démission ce soir de Nicolas Taverneau, le directeur général de LFP Média, après la perte, ou plutôt le fait que les droits de la Coupe du Monde 2026 aient été attribués à beIN Sport plutôt qu'à Ligue 1+, c'était son grand dossier. Il y avait un préaccord entre la chaîne de la Ligue et la FIFA, un accord qui a été rompu puisque c'est beIN Sport qui remporte le lot. On parlera de tout ce sujet à 18h45. Et puis, autre événement sur RMC toute cette semaine, Jérôme,
oui.
Vendredi, ce sera vendredi 13. Le vendredi 13 février, avec 30 000 euros à gagner en cash, net d'impôts. Et quelques jours après, sur votre compte en banque, on a vérifié trois fois, c'est bien net d'impôt, les gars.
Ah bah,
30 000 euros,
ouais.
Comme ça.
J'en connais qui ne doivent pas être contents.
Ouais. Pourquoi?
Les impôts. Ouais. Ah, justement, ça peut concerner la vie de recherche. Écoute, tout à l'heure.
Manu, dans deux ans, ils auront des nouvelles.
C'est mon inspecteur des impôts, non? Qui va m'appeler?
On verra.
Oh, ça serait un bon moment.
C'est sûr que j'ai dû lui changer la vie. Comme il s'est gavé avec moi.
Et bah, il sera là tout à l'heure à 19h25. Si vous voulez tenter de remporter 30 000 euros en cash, vous aurez évidemment à être très attentif. Et dès que ce signal sonore retentira, vous aurez 5 minutes pour jouer. Envoyez 13 par SMS au 732-16. 13 au 732-16. 18h04 sur RMC tout de suite. Ça y est, c'est fini entre l'OM et De Zerbi.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories.
Avec Roberto De Zerbi, on voulait construire 3 ans avec un entraîneur puissant et qu'il pouvait incarner la leadership.
Qu'est-ce que je m'en cague ?
Quand je dis que c'est pour moi le coach idéal pour l'Olympique de Marseille, c'est parce qu'il a toutes ces qualités-là.
Tout ce cinéma, mais pour ça, on s'en branle.
Du coup, on perd, faut être tous ensemble. Faut avoir les coups de soudé tous ensemble, se serrer les mains.
En tant que président, je suis le premier responsable de tout le monde et de tout ça, que ça se passe à l'intérieur de club.
On essaie de nous faire avaler des couleurs, ça renforce rien du tout.
Ouais. Parce qu'il faut quand même garder une certaine cohérence. De tout le temps changer d'entraîneur, je sais pas si c'est vraiment la solution.
Parce qu'à un moment donné, entre nuls, il y a bien des gens qui sont bons quand même.
J'adore les polémiques.
C'est n'importe quoi. Mais il est nul.
Bonjour Roberto, je me permets une petite question décalée qui est pas directement sur l'OM.
RMC, non?
RMC, ouais.
Ah oui.
Vous écoutez RMC, vous aimez bien?
Non.
Ok, d'accord.
Le sort de Roberto De Zerbi a donc été officiellement scellé à 2h35 du matin la nuit dernière, communiqué publié par l'OM, à la suite d'une concertation réunissant l'ensemble des parties prenantes de la direction du club. Il a été décidé d'opter pour un changement à la tête de l'équipe première. C'est une info RMC Sport d'ailleurs qui allait dans ce sens dès le début de la soirée hier. De Zerbi n'a pas résisté à la série difficile que traverse l'OM. Élimination en Ligue des Champions, humiliation au Parc des Princes avec cette défaite 5-0. Et désormais 4e place de Ligue 1. Il aura tenu 18 mois à la tête de l'OM. Florent Germain est là, c'est lui qui avait toutes les infos hier. Salut Flo.
Salut à tous.
Livre-nous les coulisses de ce départ, Flo.
Écoute, tu l'as dit, oui, ça s'est acté dans la nuit, négocié dans la journée de mardi. Les dirigeants, l'actionnaire Franck McCourt, qui a forcément été consulté parce que De Zerbi percevait un salaire important, hein, plus de 500 000 euros bruts par mois. Il était sous contrat jusqu'en juin 2027. Selon nos infos, 7 adjoints quittent également le club avec lui. Donc tout ça nécessitait forcément une validation du boss. Depuis 48 heures et la défaite au Parc des Princes, le constat était sans appel. Le message ne passait plus, les consignes non plus. Il y avait déjà eu des hésitations, des envies de départ chez De Zerbi après le fiasco de Bruges. Là, on l'a senti et j'étais en conférence de presse dimanche au Parc des Princes. On a vu un Roberto De Zerbi qui était sur le point de baisser les bras, de renoncer. On nous le décrit assez touché, très triste. Dévasté. Pour la petite anecdote, quand on a dévoilé l'information hier soir, la plupart des joueurs n'étaient pas au courant que son départ était en train d'être négocié au point d'être imminent. Donc c'est un petit détail important dans le sens où ça prouve que au sein du club et des dirigeants, on en veut aussi aux joueurs et on veut désormais les mettre aussi devant leurs responsabilités. Ok, De Zerbi ne faisait plus l'affaire, mais les joueurs vont devoir réagir. Avec qui sur le banc, on peut vous dire que l'entraînement du jour a bien été animé par Jacques Abardonado et Romain Ferrier, qui était le coach de l'équipe réserve jusque-là.
Flo, reste avec nous. La une de Rotten sans flamme ce soir, le départ de Roberto De Zerbi était-ce inéluctable? 32-16 pour participer avec nous. Est-ce que tu es surpris, Jérôme, de voir tout ce qui s'est passé depuis hier?
Ah non, surpris, non. Le timing, on aurait pu gagner une journée, c'est ce que je te disais hier. Surpris juste que ça arrive dans la nuit cette nuit, ça aurait pu être acté lundi. Après, j'imagine qu'il y a des modalités qui ont duré, modalités de contrat dans tous les cas, surtout quand tu arrives avec 9 adjoints. Donc il y a du monde derrière à indemniser, ça c'est sûr. Donc c'est pas comme ça en claquant des doigts que tu trouves trouves la solution et que tu tombes d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce qui s'est passé depuis le début janvier, parce que bon, il s'est passé déjà beaucoup de choses sur les 6 premiers mois de l'année, allez, les 7 premiers mois, et c'est vrai que on sentait qu'on allait direct vers un échec dans tous les cas. Moi, il m'a déçu et je peux revenir sur plein de choses, sur toutes les choses que j'ai pu dire, mais juste la communication et son comportement, il a évolué par rapport à l'année dernière, et je trouve qu'il a perdu en effet le mot chef d'orchestre d'un entraîneur. En plus, quand tu es le projet, parce que ça a été confirmé par la direction il n'y a pas si longtemps que ça, forcément il y avait des manques, et pour moi c'était inéluctable de voir De Zerbi partir par rapport à ce qui s'est passé à Bruges, ce qui s'est passé contre Liverpool, ce qui s'est passé au Parc des Princes. Tu sens qu'il y a une équipe qui est amorphe. Bien sûr que les joueurs sont responsables. On est tous passés par là. T'as les entraîneurs qui sont là pour mettre une animation en place, pour essayer de te donner le plus d'excitation possible à un match. Après, c'est à toi de te prendre en main et d'être meilleur. C'est sûr qu'ensemble et individuellement, ils ont pas été bons. Donc c'est eux déjà avant tout les premiers responsables du fait que De Zerbi n'était plus l'entraîneur adéquat pour ce projet. Mais à côté de ça, quand tu as fait de De Zerbi il y a un an et demi, un peu plus d'un an et demi, ton projet que tu as encore dernièrement, et c'est ça qui me paraît incroyable, invraisemblable, et c'est pour ça qu'on va attaquer l'équipe dirigeante tout à l'heure à 18h30, c'est que tu as des dithyrambiques sur De Zerbi. Jusqu'au dernier moment, tu as été dithyrambique sur lui. Alors que franchement, la vérité, c'est que des manques, il y en a eu beaucoup, 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 et des erreurs de com. Et hier, je te le disais, il peut pas continuer. Tu peux pas admettre, quand tu es un joueur de foot, quel que soit, que tu sois bon, pas bon et tout ça, que les têtes soient basses, c'est normal. Quand tu prends des claques et que tu n'arrives pas à hausser ton niveau collectivement et individuellement, bien sûr que t'as perdu confiance. Et on le voit, les joueurs ont perdu confiance. J'imagine pas que leur niveau, c'est ce qu'on a vu, leur niveau réel des joueurs, collectivement et individuellement, c'est ce qu'on a vu contre Liverpool, c'est ce qu'on a vu contre Bruges et ce qu'on a vu au Parc des Princes. Donc, ils sont mentalement très faibles aujourd'hui, très touchés. Et que la seule solution, c'est en effet qu'il y ait un entraîneur qui soit sur le banc et qui arrive à leur redonner confiance et surtout à avoir un discours qui leur permette de sortir la tête de l'eau. Avec De Zerbi, c'était mort. Quand t'as un entraîneur, t'imagines, qui arrive après le match du Paris Saint-Germain, et ça a été le cas après Bruges, qui déjà, la première explication, c'est pardon par rapport aux supporters. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pardon? Pourquoi tu t'excuses? Écoute, t'es responsable, t'as été catastrophique. T'imagines qu'il s'est excusé deux fois en 10 jours quand même, déjà. Et après, sous prétexte...
Et après, dire qu'il comprenait pas.
Mais non, c'est ça. Oui, je comprends pas, je sais pas, j'ai pas de solution. Mmh. Ça, c'était son discours après le match au Parc des Princes. Eh bien sûr, c'est comme Francaise, il y a dernièrement avec Nice. Ce que je veux dire, quand tu tiens ce discours-là, tu peux pas rester. Et d'autant plus dans un club qui a des ambitions très élevées, où t'as une ferveur particulière.
Les joueurs, ils ont le droit de se prendre en main aussi, Jérôme, non?
Ah oui, mais plus avec lui. Plus avec lui. Par contre, là où Benoît, où t'as raison, et là je vous donne la main et je vous donne la parole, c'est que là, il va plus falloir se cacher, parce que là, t'as déjà eu la tête de cet entraîneur-là. Pour moi, il était surcoté, très bien, il est plus là. Maintenant, quel que soit l'entraîneur qui arrive, il faut que les joueurs, ils se prennent en main, ils réagissent.
Hein. Ça, on en parlera à 19h des potentiels successeurs de De Zerbi. Manu, comment tu réagis, toi? C'était inéluctable alors?
C'était prévisible, on sentait venir, mais en même temps, moi, je suis quand même relativement déçu. Déçu, pourquoi? Parce que là, ils ont eu un petit déclassement en championnat et on voit Lyon leur passer devant et c'est très très chaud pour essayer d'accrocher la Champions League. Déçu parce que je me dis, il reste 13 matchs de Ligue 1, il y a la Coupe de France encore à aller chercher et je me dis que ce match de Lyon, il se profile dans 2 semaines. Derrière, tu as le tour des quarts de finale de Coupe de France, ils enchaînent avec Toulouse. Ouais. Et derrière, c'est des équipes largement à la portée de l'Olympique de Marseille. Donc, je me dis déçu parce qu'il y avait la possibilité d'accrocher une Champions League. Et pourquoi pas un titre à la fin de saison, de finir quand même avec une certaine dignité.
À quoi ça sert, tu veux dire? C'est ça?
Je ne sais pas à quoi ça sert. Je me dis, quand je vois le fiasco dans lequel naviguent les Marseillais à l'heure actuelle, je me dis, mais en fait, l'histoire se répète.
c'est fatigant, quoi. C'est le seul club au monde où Marseille, où les entraîneurs jettent l'éponge. Je connais pas un club où les entraîneurs partent d'eux-mêmes. C'est le seul club en Europe ou dans le monde probablement où les entraîneurs se succèdent. Et à la fois, au bout de un an, deux ans, trois ans.
Voilà. Est-ce que c'est vraiment le cas, Flo Germain?
C'est bah, plutôt. Ça y ressemble quand même, hein, quand tu vois la.
Ah non, c'est mutuel, un commun accord. Ah, voilà. Ils se sont parlé. Les dirigeants étaient aussi tristes d'acter le fait que De Zerbi n'a plus les idées.
Il y a des choses qui
ne
trompent pas, Flo. Quand je vois sa conférence de presse après Bruges, quand je vois sa conférence de presse après Paris. On en parlait dans l'after, c'est un mec qui a plus de ressort, qui a plus d'idées, qui est déprimé.
Il est arrivé aussi au bout peut-être de son management et de ses idées, ouais. et ça va peut-être au-delà du simple contexte marseillais, parce que là tous les coachs qui sont partis, ce sont quand même des cas un peu différents. On met un peu tout le monde dans le même panier, mais ces dernières saisons, par exemple Sampaoli, je pense qu'il regrette. Enfin, c'est pas je pense, et j'ai pu échanger avec lui. Il était même venu en direct sur RMC quelques mois après son départ. Je pense qu'il regrette d'avoir pris cette décision sur un coup de tête. Les relations avec Tudor, c'était un petit peu complexe, il s'est passé certaines choses, donc Igor Tudor est parti, Marcelino, on connaît l'histoire, bon, ce sont à chaque fois quand même des cas,
Bielsa
des cas
aussi,
différents.
Parti par lui-même.
Oui, ouais. Mais Bielsa, c'était une toute autre époque.
Ouais. Oui, non, mais je suis d'accord, mais
Labrune,
vous connaissez un club où la plupart du temps, ce sont les entraîneurs qui partent d'eux-mêmes.
Non, mais là, il y a aussi un aspect que tu mets de côté, c'est.
Alors, c'est un commun accord.
Non, mais c'est la cassure avec son groupe. À un moment, quand tu l'as passé ces dernières semaines à critiquer ses joueurs,
j'imagine.
Bah, la fracture, elle est arrivée.
J'imagine.
C'était terminé, en fait.
Longoria avec Benatia aujourd'hui, de se dire, mais c'est quoi le discours? À mon avis, ils en veulent. De loin Benatia, j'imagine qu'il avait envie d'emplâtrer les joueurs, tu vois.
Ah, mais il en veut aux joueurs.
C'est ce que je dis.
On l'a dit d'ailleurs.
Donc, quelque part, je me dis. Quand il reste 13 matchs à jouer, moi je pensais vraiment, connaissant un peu le caractère de Zerbi depuis qu'il est en Angleterre,
il allait continuer à aller au bout.
C'est un sanguin, il a l'italien, il a le caractère, la personnalité. Bon,
c'est jamais traduit sur le terrain.
Oui, mais la lassitude qu'il a affichée après le match du Paris Saint-Germain, je l'ai dit ici sur le studio même. Je lui dis, pour moi, dans ma tête, c'est sûr, il s'est acté. Il a pu, t'as l'impression qu'il est groggy, il a pris deux supercoutes en pleine tête.
Exactement. Il était KO.
Il savait plus quoi dire, savait plus quoi faire. Il était las, justement, de l'attitude de ses joueurs. Il prenait à chaque fois, à chaque match, il prenait une pièce, il avait la balle en l'air.
Il aurait dû être las aussi de son attitude, parce que franchement, la vérité.
C'est pour ça que je suis déçu.
Son attitude est catastrophique.
C'est pour ça que je suis déçu. J'aurais pensé qu'il
s'est pris pour un cas d'or.
Je vais aller jusqu'au bout. Je vais tout faire pour accrocher la Champions League et la Coupe de France. Et à la fin, si t'as envie de partir,
Manu,
ce qui était dans les cordes encore, hein.
Exactement.
Mais tu sais, Benoît, moi là où je lui en veux, pour rebondir sur ce que disait Manu, c'est son attitude aussi. Elle a tellement évolué son attitude, et là, il pouvait plus se cacher. C'est ce manque d'humilité, se prendre pour un cador, ce qu'il n'est pas. Je suis désolé. Là, tout le monde nous a vendu De Zerbi comme un José Mourinho, comme un Pep Guardiola, comme un Carlo Ancelotti. La vérité, c'est qu'il a jamais été à ce niveau-là de ces entraîneurs-là.
Moi, c'est pas ce que j'ai ressenti en un an et demi de conférence de presse. Je préfère le préciser parce que des fois, on peut aussi se faire une idée quand on ressort certaines. D'être là, certaines punchlines, et je le critique pas parce que il doit aussi être responsable de ça, de ce qu'il renvoie, des phrases qu'il utilise, d'être là, il sait que ça va faire le buzz, etc. Donc parfois, je pense qu'il a eu des petites sorties maladroites ou qu'il a exagéré. Mais honnêtement, je préfère le dire. Un an et demi de conférence de presse, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de suiveurs. Nous, on a vu un coach passionné, respectueux, mais pas un gars qui avait le boulard.
Et alors, écoute,
c'est pas ce sentiment-là que
je suis d'accord avec Flo. Non, mais vous avez pas ce sentiment-là, mais il y a juste des c'est pas forcément par les paroles ou par le comportement, c'est juste les actes, ce qui s'est passé à travers des joueurs qu'il a dégagés. Voilà, ça c'est la première chose. Ça veut dire que le mec, il se sent vraiment largement au-dessus des joueurs. Non, mais c'est une question de management. Donc après, tu peux avoir un boulard qui est pas forcément ce que vous décrivez vous. C'est-à-dire
Je croyais que tu disais dans sa communication.
Après,
dans le management, la preuve, Jérôme, excuse-moi de te couper, c'est que le cas Mourinho, effectivement, ça a ému un peu le vestiaire parce que c'est un cas supplémentaire après Mopet, après Rabiot, après ci, après là, où les joueurs se disent bon, ça va, nous on est jetables.
Mais et Benoît, tu t'es pas d'accord, mais moi je me souviens juste des déclarations ou des d'après-match de Newcastle où là tout se passait bien parce qu'après Newcastle ils avaient de grandes chances de se qualifier, rappelez-vous, il fallait faire après l'Union Saint-Gilloise donc là ils avaient tendance, si tu veux, à bomber le torse, tu vois, à se dire voilà, et je me souviens des déclarations du directeur du football déjà excuse-moi, mais c'est bien de le rappeler après ce match-là où là tu te sentais fort et tu te dis on va atteindre l'objectif en Ligue des Champions. Ils se sont peut-être vus trop beaux et c'est pour ça qu'ils prennent une claque derrière. Mais quand tu dis ah bah oui mais les critiques, les critiques, voilà, vous savez parler. Mais là on a une grande équipe, on a des grands joueurs, on a un grand coach. Le coach il était là pour bomber le torse aussi parce que t'avais battu, écrasé Newcastle. Hein,
en mais pendant 5 minutes, un moment en deuxième ils ont mi-temps. Défendu le groupe quand même, Giroud. Hein.
Mais vas-y Benoît, vas-y parce que moi j'en ai beaucoup.
Moi je suis juste d'accord sur le fait que je pense qu'il il s'est trompé sur sa sortie avec Mourinho. Mais j'ai jamais senti un coach prétentieux, arrogant ou quoi que ce soit. J'ai senti un coach hyper impliqué, hyper investi. Et comme le trio en fait, et on peut parler de la doublette Benassia de Zerbi, je pense qu'ils ont toujours mis au-dessus de tout les intérêts de l'OM et qu'ils ont tout fait corps et âme. Ils ont tout fait dans l'intérêt de l'Olympique de Marseille. Maintenant, si je suis de Zerbi, je peux en vouloir aussi aux joueurs. Tu le dis souvent, on a été joueurs, on a connu des situations plus compliquées. Mais à un moment donné, quand tu prends certains buts ou quoi que ce soit, c'est pas toujours l'entraîneur.
Ah non, mais
tu prends la touche de Toulouse, le but à la 15e le trophée des champions contre Paris, la gestion de la profondeur. À un moment donné, tu parles de l'aspect mental aussi. Mais est-ce que tu crois que un Ben Pavard, un Balerdi, un Medina ou quoi que ce soit, le coach, il a juste à faire en sorte que les joueurs soient à leur niveau, tout simplement, pas plus ni moins. Il n'est pas là pour les faire progresser, juste qu'ils soient à leur niveau.
Donc tu regrettes le départ de Zerbi, Benoît?
Moi, je suis un peu déçu. Je suis aussi un peu déçu. Alors, je sais pas comment ça s'est passé ce départ. Est-ce que c'est lui qui a lâché concrètement ou quoi que ce soit? Mais c'est pas un départ pour lequel je me réjouis pas de ce départ.
Non, mais on n'a pas à se réjouir, Benoît. C'est pas ça. C'est juste le constat. Toi, quand tu me parles de joueurs, oui, t'as pas besoin d'un entraîneur, en effet, pour être motivé.
Ça dépend sur, qui, Jérôme.
Non, mais
tu parles d'un jeune joueur. Un jeune joueur, il a besoin du coach.
Excuse-moi.
Mais un Pavard, il a pas besoin de Zerbi.
Mais on est d'accord. Mais sauf que après, un Pavard, un Medina, un Balerdi, pour parler du secteur défensif, parce que c'est quand même là que c'est un gros problème, et on l'a vu encore au Parc des Princes, ils ont besoin de repères aussi, de jouer ensemble le plus régulièrement possible avec les mêmes joueurs. Quand tu fais 30 compositions d'équipes différentes sur les 30 matchs, bah peut-être que ça aussi c'est un problème aussi d'entraîneur, que quand la structure, ce que tu demandes à de Zerbi Ball là qu'on nous a vendu quand il est arrivé, moi je l'ai jamais vu, je sais même pas ce que c'est de Zerbi Ball, la vérité, je sais pas si vous l'avez lu, Flo, toi Benoît ou toi Manu. Moi, d'un match à un autre, on savait pas. Quand on me parle que l'entraîneur, il doit être entraînant, on est passé par là aussi. En effet, l'entraîneur, il doit bien parler. Les causeries sont importantes, mais c'est pas la base. Hein, les causeries, c'est du branlage de cerveau. Hein, je suis désolé
toi,
du
Jérôme,
terme.
Toi, Jérôme, t'as rien vu en termes de jeu sur l'OM.
Quand le directeur du football vient t'expliquer ici à RMC que les causeries. Quand il sort de la causerie, il a envie de grimper au rideau et revenir sur le terrain et remettre le maillot. Et que quand tu vois les premières mi-temps des gros matchs de l'Olympique de Marseille, il y a des questions à se poser, Benoît, sur l'approche de Deserbi.
Ce qui les tue plus quand tu regardes les résultats, c'est de la 80e à la fin
c'est
du
les
match.
C'est les fins de match
et les premières mi-temps catastrophiques.
Merci Flo. Merci pour toutes les infos retrouvées sur
Sport. Jérôme, tu regardes encore le match du PFC. Ils sont à 2-0. Est-ce que tu as besoin d'un Deserbi pour te dire à un moment donné tes joueurs cadres?
Mais ça, je suis d'accord.
Mettre un bloc un peu plus bas et il reste sur un 2-0.
Benoît, t'as pas pris. Rassure-moi, t'as pas pris Deserbi pour battre le PFC ou battre Angers, Toulouse et tout ça. Rassure-moi.
On est d'accord. Malgré tout, dans leur bilan, ils finissent deuxième l'année dernière, ils font deux fois la
Ligue. Sinon, tu prends Philippe Montagnier et puis t'es bien. Tu le fais aussi.
Accueillons Morgane Guillon qui est avec nous au 32-16, supporter de l'OM. Jérôme, Morgane qui est là.
Salut Morgane.
Bonsoir tout le monde.
Salut, bienvenue.
Salut Morgane, ça va?
Oh, ouais, ça va. Un peu désabusé, mais ça va.
Bon, alors qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que pour toi c'était d'office, inéluctable le fait que Deserbi s'en aille?
Ben, je trouve ça très dommage. Si on reprend les déclats de Longoria après le tirage au sort de la Ligue des Champions, les objectifs du club sont clairs, c'est finir sur le podium, retourner en Ligue des Champions et pourquoi pas avoir un titre. Et donc en fait, au jour d'aujourd'hui, tu es encore capable de remplir ces objectifs-là.
C'est vrai.
Alors oui, il y a eu Bruges, il y a eu Paris, et malgré Paris, je pense que s'il n'y a pas cette gifle à Bruges, il se passe pas tout ça. Il a vraiment été atteint par ça se voyait. Je pense qu'il y a deux choses qui ont fait qu'on en est arrivé là. La première, c'est que Deserbi, justement, s'est trop identifié à cette ville, à ce club, et il a été touché, mais comme un supporter qui suit l'OM depuis 30 ans, depuis Bruges, et on le sentait qu'il avait pris un coup sur la tête, qu'il aurait du mal à se relever. Il est peut-être un peu trop dans les sentiments dans cette ville et dans ce club. Et la deuxième chose En fait, les conclusions qu'il faut tirer encore de cet épisode-là, et ça fait plusieurs fois, Jérôme, moi, que je le dis, quand tu es tellement exigeant envers l'OM, et Daniel en a parlé hier, en fait, cette exigence, elle n'a plus lieu d'être avec ce club-là. Ça fait des années qu'on ne fait absolument rien en Europe.
Ouais, c'est vrai.
Ça fait des années là, il y a même Lens qui arrive à jouer le titre, nous, on n'y est pas. Donc, en fait, il y a une exigence démesurée de la part des médias, de certains supporters aussi.
Mais c'est normal.
L'OM doit être Morgan. Là, l'OM doit être en barrage, l'OM, mais en fait, non, l'OM doit progresser petit à petit. Mais
Morgan, juste te coupe. Mais l'OM, c'est le deuxième budget de France.
Et de loin.
Avec 280 millions d'euros de budget. Ah, excuse-moi, que tu es en droit. Attends, avec la ferveur que vous représentez à Marseille, parce que c'est le cas, c'est une vraie ville de foot. Bah, tout ça fait que tu dois avoir.
C'est gagner une ferveur, Jérôme. Et le budget.
Ah, mais ça doit t'aider. Ça doit t'aider aussi.
Sur le budget, je suis d'accord sur le championnat français. En fait, c'est une honte d'être à 10 points de Lens. Tu dois être toi, soit à la lutte avec Paris, soit derrière Paris. Ça, je suis d'accord. Mais niveau Europe, ça veut rien dire. Je me souviens du match de l'Atalanta. Le débat que vous faisiez avant le match, c'était l'OM joue-t-il sa saison? Mais en fait, on est qui en Europe pour dire on doit aller en barrage? L'Atalanta, c'était le finaliste de l'Europa League 2 ans avant. Comment?
Tes dirigeants l'ont dit à l'époque, hein, que c'était l'objectif. Il y avait 2 objectifs, la Ligue des Champions encore l'année prochaine et les barrages de Ligue des Champions.
Alors, moi, je me souviens que je suis passé avec Mehdi Benatia quand il est venu dans vos locaux. Il n'y a aucune priorité. Évidemment, on avait envie de jouer le barrage. Mais la priorité, c'était d'y retourner et de pourquoi pas gagner un titre. Si tu faisais choisir au club, est-ce que vous voulez mieux jouer comme Lille l'année dernière, qui fait un quart de finale mais qui finit cinquième, moi, je signe pas du tout. Parce que aujourd'hui Lille a perdu tous les gros va et compagnie. Ils sont en grosse difficulté en championnat. Et le budget n'a pas suivi. Donc, en fait, la priorité du club, c'était d'y retourner, peu importe ce qui se passait dans la saison. Et il y a des exemples. Il y a Arteta, Arsenal, il arrive, il fait 2 fois 8e. Mais ils le soutiennent, ils sont encore là. En fait, on n'y arrivera jamais si dans les moments difficiles, on ne soutient pas.
Morgan, tu peux pas comparer avec Arteta. C'est incomparable. En fait, Arteta, il avait des moyens, mais avec un effectif très jeune, et ils lui ont laissé le temps parce que c'est comme ça. Marseille, c'est pas ça. Et tu comprends, toi, la politique de Marseille avec autant de changements, encore 13 changements au mercato d'été, 5 changements au mercato d'hiver, du moins 5 arrivées. C'est là-dessus, moi, qu'on reproche toute la stratégie et surtout la stratégie aussi de Zerbi, parce qu'il est aussi responsable de cette instabilité.
Ce sera le thème du procès.
Et puis Morgan, juste, je suis désolé, mais si on n'est pas exigeant avec l'OM en demandant que l'OM finisse dans les 24, les gars, il n'y a pas Fos qui est qualifié.
Mais ils étaient qualifiés pour le dernier match.
Non. Oui, ils étaient qualifiés. Brest l'année dernière avec un tout petit budget, Brest, pas de recrues ni rien, ils se sont qualifiés. Et Lille pareil. Et Marseille, donc en fait, on devrait accepter qu'ils soient 25e. Non mais moi je peux pas. Moi j'y arrive pas.
Hein. Merci Morgan d'être venu au 32-16.
C'est décevant.
On parle des dirigeants.
Le club a bien changé en fait. C'est pas le club que j'ai connu.
T'es d'accord, Manu.
18h26 sur RMC. Dans un instant, donc on va faire le procès de la direction marseillaise qui n'apprend pas de ses erreurs. On vous attend, supporters marseillais, au 32-16. On parlera du successeur de De Zerbi à partir de 19h avec vous, avec les infos de Fabrice Hawkins et avec Eric Dimeco qui sera avec nous à partir de 19h. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h32 sur RMC. On est là, on est bien. On continue de parler de l'éviction de Roberto De Zerbi et de ce qui se passe à l'Olympique de Marseille. On est avec Benoît Boutron, avec Manu Petit, avec Benoît Costil. Dans 15 minutes, le Allô Jérôme, on sera avec un Marseillais.
Alors Eric Dimeco sera à 19h parce que l'actualité c'est ce qui se passe à la Ligue puisque Nicolas Taverneau, DG de LFP Média, a proposé sa démission après ce qui s'est passé hier. Bein Sport a racheté les droits.
Exactement. C'est la télénovela.
Ah bah là on va suivre ça. Là on va tout vous dire à 18h45. Bein Sport récupère les droits de Coupe du Monde. Alors qu'il y avait un pré-accord entre Ligue 1 Plus et la FIFA. Tout nous sera bien expliqué. Ah, 18h32 sur RMC, c'est le moment. Si vous voulez remporter jusqu'à 30 000 euros en cash net d'impôts et dans quelques jours sur notre compte en banque. Manu, prends ton smartphone et tu envoies tout de suite 13 TREIZE par SMS au 732-16.
Enfin, le chiffre. Hein.
Ouais.
Non, ça va, 13. Il est capable de mettre 1 et 3.
Ça porte pas trop bonheur. Non, c'est vrai.
C'est les bouches du Rhône. C'est les bouches du Rhône.
Ouais. Allez, Jérôme, on laisse 10 minutes. Ouais, là, il est 33.
10 minutes jusqu'à 43. Allez-y. Là, ça va changer votre vie. Hein.
Allez, n'hésitez pas.
Au moins les 15 prochains jours.
Et on continue de parler de l'OM et tout de suite de la direction.
RMC. Roten sans flamme.
Ça, c'est de la vraie corruption. C'était tout orienté. Quelle corruption, c'est la corruption totale. Qu'est-ce que le championnat de mer? Corruption. Corruption dans les championnats de mer. Ces championnats, c'est corrupt.
C'est corrupt. Le procès de Roten sans flamme.
Tout corrompt. Ce fameux projet de stabilité après un sacré coup. Donc hier, Marseille se sépare de De Zerbi 18 mois après son arrivée. C'était lui la tête d'affiche du nouveau projet sur 3 ans initié par Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Il a eu les pleins pouvoirs, il a eu beaucoup d'adjoints à disposition, des recrues en nombre à chaque mercato. Et ce qui est assez dingue dans cette histoire, c'est que Pablo Longoria va nommer un 7e entraîneur à l'OM depuis son arrivée en 2021. Avec aussi une autre problématique à Marseille, on l'a souvent relevé dans Roten sans flamme, cet effectif en mutation constante. On a fait le point, Manu, Jérôme et Benoît. Depuis que Longoria est arrivé, il y a eu 156 mouvements de joueurs à l'OM, 69 arrivées, 87 départs et cet hiver 3 arrivées et 8 départs. On ouvre donc ce soir le procès de la direction marseillaise qui n'apprend pas de ses erreurs avec deux procureurs. Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Emmanuel Petit, bonsoir.
Bonsoir.
Le courageux du soir, c'est Benoît Costil qui va défendre la direction de l'OM. Salut Benoît.
Bonsoir, je suis chaud.
Ouais, c'est bien. Et Hakim, supporter de l'OM, va rendre son verdict au 32-16.
Salut Hakim.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Vas-y Jérôme, tu peux y aller sur la direction marseillaise et donc ce nouveau coup dur. Le projet stabilité là, c'est envolé.
Bah en fait, moi j'ai souvent défendu Pablo et Mehdi l'année dernière sur ce qu'ils voulaient mettre en place. Parce que pour moi, mettre un entraîneur de cette envergure-là, hein, on nous l'a présenté comme un cador. Alors peut-être trop présenté comme un cador, mais n'empêche que il est arrivé avec une armée. On lui a donné la possibilité de mettre son jeu en place et surtout d'avoir enfin de la stabilité parce que c'était le mot d'ordre au début de ce projet. Il y a pas de souci. Moi, je vais complètement dans leur sens. Le problème, c'est que parler c'est bien beau, mais après il faut aussi avoir des retours dans ce sens-là. Le problème, c'est que après le premier mercato d'hiver l'année dernière, il y a déjà eu beaucoup d'instabilité. Départ de mecs que tu avais pris 6 mois avant et j'étais le premier à dire, mais c'est bien, ils ont reconnu l'échec, Brassier, Wahi, entre autres, avec beaucoup d'investissements. Et hop, tout de suite, les mecs sont repartis parce que ça allait pas avec ce que représente l'Olympique de Marseille et ce que veut mettre en place De Zerbi. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que c'est bien de se tromper une fois et le reconnaître une fois, deux fois, trois fois. Mais quand tu commences à te tromper 5, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 15 fois, là, c'est dans les yeux, t'as pas forcément que de la réussite, hein, tu vois. Donc, t'as beau représenter l'OM correctement, être fier de représenter l'Olympique de Marseille comme ça, avec un président qui a connu tous les postes dans les clubs, avec un directeur sportif qui connaît la région marseillaise parce qu'il a été formé et ce club, il n'y a pas de souci. Mais après, le problème, c'est que ce que tu as mis en place depuis maintenant un an et demi, bah, c'est parti en vrille complètement et c'est parti en vrille après le mercato d'été. Et on a été très critique, j'ai été très critique à ce moment-là et à juste titre. Et peut-être, ça aurait été bien pour les Marseillais que ça me donne tort, mais ça m'a donné raison. Tout ce que moi j'ai pu dire à l'époque sur cette instabilité, et surtout, elle est de nouveau tous les ans. Il y a toujours de l'instabilité avec Pablo Longoria quand il était directeur sportif. Depuis qu'il est entraîneur président, c'est la même
156
chose.
156 mouvements de joueurs.
Non, mais c'est tu te rends compte. Tu peux pas arriver à quelque chose de performant sur le moyen terme. Je vais même pas parler de long terme sur le moyen terme quand t'es aussi instable en termes d'effectifs, en termes d'entraîneurs, tout ce que tu veux. Donc oui, aujourd'hui, moi je les attaque plus là-dessus. Et en plus de ça, là où je les attaque, c'est la communication. Et dernièrement encore, ou sur les 6 premiers mois, avec ce qui se passait, il y a des choses qui se passaient pas bien à l'Olympique de Marseille. Alors nous, on n'y met pas forcément les formes. Et je peux comprendre qu'ils se braquent et qu'ils nous parlent plus. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Peut-être que nous, des fois, on manque un peu de tact. Mais on dit les choses. Enfin, contrairement à d'autres médias qui ne disent pas les choses, qui vont dans le sens dans le sens du vent.
Ouais.
Nous, on les dit. Ils se braquent, il y a pas de problème. Mais eux, reconnaissez, les gars, reconnaissez Pablo et Mehdi que vous êtes trompés. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et non. Et au lieu de reconnaître, eh ben, ils ont continué, si tu veux, à nous vendre le projet de Zerbi, à nous dire c'est fantastique, les causeries, les ceci, les joueurs, ils sont magnifiques. je pourrais te prendre des joueurs qui sont déjà repartis là au bout de 6 mois qui nous ont vendus au mois de septembre,
Angel
au mois d'octobre.
Angel Gomez, Matoraine,
Vermeeren, il joue pas. Ouais. Murillo, les attaquants magnifiques, Aubameyang, grande surprise, Guiri qui t'a servi l'année dernière, bah il était rétrogradé puis maintenant c'est la tête d'affiche. Mmh. Donc, en fait, rien y comprendre. Greenwood, le cas Greenwood, c'est typique le cas Greenwood avec tout ce qu'ils nous ont raconté l'année dernière. En nous disant s'il y a une grosse offre sur Greenwood, peut-être qu'on réfléchira. Et puis maintenant, Greenwood, c'est limite le futur ballon d'or parce qu'on l'a façonné. En fait, ça n'a rien y comprendre. Et puis encore, et là où j'attaque d'autant plus Longoria, c'est qu'il n'a pas donné beaucoup d'interviews, mais dernièrement, il en a fait une et il te vend le projet de Zerbi comme le projet Diego Simeone à l'Atlético Madrid. Exactement. Et 15 jours après, le mec, il est dehors. Ouais. Donc, écoute, je suis désolé, mais moi, j'ai du mal avec tout. Alors, ça, donc il va falloir vraiment qu'il se remette en question.
Manu, qu'est-ce que tu
veux rajouter ? Il reste combien de temps là, parce que...
Il te reste du temps.
Ouais, t'as le temps.
T'inquiète pas.
Non, moi, je constate en fait que dans le football, il y a quand même une ligne directrice pour avoir du succès, c'est la stabilité. Tu prends tous les championnats, tu prends tous les clubs qui gagnent année après année, la plupart, la grande majorité d'entre eux, hormis peut-être une fois de temps en temps un coup de poker, mais tous se rejoignent, ils ont tous un point commun, c'est le travail dans la stabilité sur le terrain et en dehors du terrain. Or, il se trouve que sur le terrain, vous l'avez dit, c'est une gare, le vestiaire de l'Olympique de Marseille, ça rentre, ça part, ça s'en va, on ne sait pas d'où ça vient, on n'y comprend rien en fait, ça fait... Tu prends 10 joueurs,
comment vous l'expliquez, vous qui avez été footballeur?
Attends, j'ai pas fini. La deuxième chose, c'est la communication qui est hors sol. Des fois, des gens, et quand ça va pas dans leur sens, c'est soit c'est corrupt, ou soit c'est la presse qui fait du complotisme. Donc il y a pas de remise en question derrière tout ça. Et puis la stabilité également sur le terrain où tu as tout un tas de changements de feuilles de match, de tactiques. On demande à Pavard de jouer numéro 9 contre Liverpool. Enfin bref, je prends un exemple parmi tant d'autres. Donc la stabilité pour moi, qui n'a jamais été dans la même phrase que l'Olympique de Marseille, parce que c'est une ville qui vibre par passion avec le Mistral qui est jamais très très loin. Mais quand ça marche, c'est magnifique. Quand ça marche pas, et ben justement le Mistral vient balayer tout ça d'un revers de la main. L'incohérence qui a été faite sur le marché des transferts depuis des années, aujourd'hui montre ses limites. Et on s'aperçoit que quand le niveau s'élève, et ben on voit les carences de cet effectif. Ils ont beau à chaque fois mettre la responsabilité des joueurs et à changer tous les 6 mois d'effectifs, le problème perdure et il est toujours récurrent. Donc moi, en fait, quand je pense à tout ça, cette instabilité en dehors du terrain et sur le terrain qui en résulte aujourd'hui à chaque fois à virer l'entraîneur et à mettre devant leur responsabilité des joueurs. Donc j'attends avec impatience le match contre Strasbourg au Stade Vélodrome parce que je suis persuadé que les supporters vont prendre en grippe les joueurs.
Ouais,
chose que je vois en fond de toile et que je trouve, je suis très nostalgique avec une grosse amertume au fond de la gorge. C'est Rabiot, si tu pouvais nous entendre et nous appeler maintenant et nous dire exactement ce qui s'est passé au mois d'août, parce que c'est tellement symbolique ce qui s'est passé au mois d'août et qui est très, très révélateur de la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
On a un courageux, c'est donc Benoît Costil qui va tenter de défendre la direction marseillaise.
Non, c'est pas du courage, c'est de faire part de mon ressenti tout simplement. Est-ce que je ressens depuis un an et demi, et notamment l'arrivée de Mehdi Benatia et de Roberto De Zerbi, c'est que je vois des choses que j'avais pas vues depuis un certain temps avec l'Olympique de Marseille. Et quand vous parlez de cette ligne directrice, je pense qu'ils l'avaient tous, les trois. Ils étaient en phase par rapport à ça. Par rapport au recrutement, on était tous plutôt unanimes sur la qualité du recrutement. Comment le recrutement sur la fin de la période estivale, il a été géré avec de belles arrivées au dernier moment. Donc pour moi, ce serait un peu malhonnête de dire que ce trio n'a pas fait progresser l'OM. Ils ont amené une certaine rigueur, une certaine discipline, une certaine exigence du professionnalisme. Quand on est joueur professionnel et enquipuisé à l'Olympique de Marseille, je pense que c'est le minimum qu'on peut demander aux joueurs. Mehdi Benatia, il fait part...
Tu l'as senti, cette exigence, toi ?
Ben, en tout cas, dans les mots de Roberto De Zerbi, et principalement de... Ah, oui, j'ai aimé son discours qu'il a pu avoir par rapport aux jeunes joueurs, ce qu'il demandait et ce qui était nécessaire pour réussir au
plus haut
niveau.
Est-ce que quand c'est poussé à l'extrême, c'est bien? Parce qu'apparemment, c'est pas si bien que ça.
À mon sens, De Zerbi a fait des conneries dans la communication, notamment avec Murillo.
Benatia, on lui reproche beaucoup de choses.
Ils ont tous fait des conneries, Jérôme. Mais s'il te plaît, laisse-moi finir.
Vas-y.
Moi, je pense que...
Pose des questions, c'est pour ça que je te relance.
Je pense qu'aujourd'hui, le problème, il vient aussi... Et beaucoup des cadres qui se sont pas mis à la hauteur. Et notamment, je pense pas que ce soit Roberto De Zerbi de faire progresser des joueurs qui ont qui sont d'une certaine qualité, avec une certaine expérience, un certain vécu. J'en ai parlé tout à l'heure de Balerdi, de Medina, de Pavard.
Mais on quel est tous vécu, okay. Balerdi, il est nul à chier.
Je te parle pas de nul à chier, mais ils ont quand même une expérience avec l'OM.
Il est pas bon, quoi.
Et maintenant, je pense pas que ce soit à eux de les faire progresser. Eux, ce qui compte, c'est qu'ils soient juste à leur niveau. Et déjà, s'ils sont à leur niveau, ce sera un plus pour l'Olympique de Marseille. Par contre, à côté de ça, évidemment qu'avec des joueurs plus jeunes, l'entraîneur doit les faire progresser pour qu'ils se développent, etc., etc. Donc, pour moi, j'avais le sentiment qu'il y avait une certaine union, osmose entre les dirigeants, bon, et qu'ils œuvraient dans l'intérêt de l'OM et qu'ils avaient une masse, une dose de travail hyper conséquente en privilégiant l'institution OM au-dessus de tout. Voilà.
Hakim, rends-nous ton verdict. Qui remporte ce procès ? Est-ce que c'est l'avocat Benoît Costil ou les procureurs Manu Petit et Jérôme Bretagne ?
Je condamne l'avocat juste d'avoir pensé le fait de défendre ce président qui est totalement indéfendable. je mettrai directement
c'était perdu d'avance, Ben, désolé.
Non, mais il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que je vois, c'est que Pablo Longoria, il a pris du recul depuis un certain temps parce que tu as un Mehdi Benatia qui gère les choses qui a pris la place et qui en impose. Et puis, lui, il s'est mis un peu en retrait. Voilà.
Il est monté en grade, d'ailleurs.
Ouais, mais sauf que notre cher Pablo Longoria n'est pas capable de faire un projet qui dure. Quand t'as un Sampaoli qui te bâtit une ossature, qui t'emmène en Ligue des Champions et qui te fait une demi-finale de Coupe d'Europe, t'arrives pas à le garder. Derrière, tu prends un entraîneur instable. Tu auras toute la carrière de Tudor, il est instable. Je vais pas faire la fine bouche, je me suis régalé avec Tudor, mais c'est un mec instable, avec qui tu ne peux rien construire. Derrière, il fait venir son meilleur ami qui démissionne au bout de 5 matchs. Après la saison, on la connaît, c'est une catastrophe. Là, on veut repartir de zéro avec des Herbiers Benatia. Je suis monté dans le train. J'ai voulu croire à ce projet, mais du plus profond de mon cœur. Et je suis extrêmement déçu qu'on en arrive là. C'est que déjà, l'entraîneur a sa part de responsabilité par sa communication, son management, ce que vous voulez. Les joueurs ont leur part de responsabilité aussi, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Mais à un moment donné, comment vous voulez qu'un collectif se crée quand vous faites 150 mouvements tous les 6 mois aussi? Et en plus de ça, et merci Manu de l'avoir souligné, le cas Rabiot, ça c'est Pablo Longoria. Vous me le faites dans tous les sens. Il ne veut pas qu'il parte gratuitement. Mais à un moment donné, il faut penser à la plus-value sportive sur le terrain. Parce que Dieu sait que si on a Rabiot cette saison au milieu de terrain, je pense que les résultats ne sont pas les mêmes, malgré tout.
Mais Hakim, je pense que le cas.
Je pense que c'est un crève-cœur pour Mehdi Benatia et De Zerbi aussi. Hein.
Et tu sais que le cas Rabiot, tu mets beaucoup sur Longoria. Mais Longoria, il n'était pas dans le vestiaire à l'époque à Rennes quand ça s'est passé.
Il y a eu des choses qui ont été très dures.
Et ça a été bien monté par Mehdi Benatia et par De Zerbi. Oui, mais c'est ce que je te dis.
Et c'était probablement le seul qui avait une exigence par le vestiaire.
Je pense que c'est pour ça, Benoît.
On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire.
Benoît, c'était après le match de Rennes.
Oui, Benoît, quand tu parlais d'exigence, en effet, c'est bien de le mettre, mais pas à l'extrême. Et je pense qu'avec le cas Rabiot, c'est là que ça a été poussé à l'extrême et que se sont retrouvés.
C'est révélateur, quand même.
Eh bien, oui, ils se sont retrouvés.
Et je serais curieux à l'avenir d'avoir les propos aussi de Mehdi Benatia qui reviennent à froid, avec du recul sur cette situation.
Il en a parlé. Il est resté sur sa version.
Et ça,
merci Hakim qui est venu, qui a donné la victoire.
Ça, Benoît, ça fait partie, si tu veux, de la suite. C'est que il faut reconnaître ses erreurs.
Il faut y aller.
L'erreur est humaine, on se trompe tous. Il s'est trompé. Alors, c'est vrai que, malheureusement, c'est un constat, mais dans le recrutement, depuis, il y a eu des noms qui sont arrivés l'année dernière. C'était surprenant dans une année où il n'y avait pas de Ligue des Champions. Cette année, il y a des noms aussi qui sont arrivés. Et comme tu disais, Benoît, on a l'impression que c'était gagner de l'expérience en Ligue des Champions. Le problème, c'est que tous ces
venir les joueurs qu'il a fait venir, il faut être costaud quand même.
D'accord. Et il y a combien de réussites? Combien de réussites?
Bah, non mais les gars, c'est la capacité à jouer sous les couleurs de l'OM.
Et donc le directeur sportif doit aussi sentir ça, Benoît. Et dans un instant, allô Jérôme, on continue de parler de l'OM à 19h pour parler du potentiel successeur donc de Roberto De Zerbi. Plusieurs noms se détachent, vous avez ça sur rmcsport.fr. On aura toutes les infos avec Fabrice Hawkins, mais dans un instant, on vous parle donc de la démission posée et souhaitée par Nicolas de Taverneau, le DG de LFP Média, après le fait que beIN Sport et récupérer les droits de la future Coupe du Monde aux dépens de Ligue 1+. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h51 sur RMC, on est là dans Roten sans flamme. On finit la première heure avec Manu Petit, avec Benoît Costil et avec Benoît Boutron. On revient après 19h, après le Allo Jérôme.
Sur la succession.
La succession.
Et oui, qui va succéder à Roberto De Zerbi à l'OM?
Parce que franchement, j'ai vu des noms, ça fait flipper. Mais on va en parler à 19h.
On fera le point sur les pistes avec Fabrice Hawkins. Et surtout, 19h25, avis de recherche. Si jamais Manu Petit a marqué votre vie, alors, vous l'avez rencontré, une rencontre directe ou indirecte,
perdu de vue parce que
c'est avis de recherche.
Ah, d'accord, okay.
On vous recherche.
J'aime
si
bien,
jamais.
J'aimais bien perdu de vue aussi.
Ouais, ouais, perdu de vue, c'est
pas mal. Pas mal, hein, perdu de vue.
Mais n'hésitez pas. 32 16 06 12 424 424.
On a été loin quand même.
Le meilleur joueur de la Coupe du Monde 98 face à vous. Mais vous l'avez rencontré, venez nous le raconter.
Ouais.
Allez,
mais la troisième personne, moi franchement, je l'aurais pas fait. Mais bon.
On a pris un risque, on verra. Écoute, Manu,
t'as un risque assumé ou...
Alors, écoute, non, tu es mon ami.
Alors écoute, moi, celui-là, je l'assume.
Tu te défiles, toi. Ah, ouais. Manu, tu es mon ami. J'espère juste que tu m'en voudras pas. Mais on en parlera tout à l'heure.
Allez,
c'est le Allo Giro.
C'est pas moi. C'est Niki.
RMC, Roten sans flamme.
L'une des raisons pour lesquelles on a eu ce succès, je crois, c'est que le public, les fans, ils ont bien compris que c'était pas une chaîne qui appartenait à tel ou tel. C'était leur chaîne.
Allo Jérôme.
Ça sert à rien d'insulter le producteur, il ne te dira rien, Manu Petit. François Pinet.
C'est pas moi, avis de recherche.
Le chef adjoint de du foot à RMC Sport nous rejoint. Salut,
François. Toi, t'es chef, t'es pas avis de recherche.
Et t'es mobilisé sur tous les dossiers. C'était deux Zerbi hier. Et là, c'est donc.
Dès que c'est important, j'arrive.
La Ligue de football professionnel.
T'as jamais autant bossé.
Avec cette information, François, donc, la démission posée par Nicolas Taverneau, qui est le DG de LFP Média. Et en fait, c'est après tout ce qui s'est passé.
Exactement.
Tout au long de cette journée en termes de droits télé, souvenez-vous, il y avait un préaccord à l'époque entre Ligue 1 Plus et la FIFA pour diffuser l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde. beIN Sport l'a appris et passé devant, a fait sauter ce préaccord pour récupérer les droits. Et ça, Nicolas Taverneau ne l'a pas forcément digéré.
Exactement. Et ce qui s'est passé après cette annonce donc de beIN Sport de l'obtention des droits de la Coupe du Monde, eh bien, ça a provoqué une réunion exceptionnelle du conseil d'administration de la LFP aujourd'hui. Et ça a été assez chaud d'ailleurs, avec notamment un échange tendu entre Nicolas Taverneau et Victoriano Melero, le directeur général du PSG qui représentait Nasser El Khalifi, qui n'était pas là, qui lui a dit, Melero lui a dit en quelque sorte qu'il n'était plus en mesure de poursuivre sa mission à la tête de Ligue 1 Plus. Et donc Nicolas Taverneau, de son côté, a annoncé qu'il n'était pas en état de continuer sa mission, puisqu'il voit les dissensions qu'il peut y avoir au sein du foot français. Il l'a dit à trois reprises exactement. Et même s'il a reçu le soutien de Valdemar Quitta, de représentants des fonds CVC et de Vincent Labrune, le président de la Ligue, c'est insuffisant. Il va partir de la LFP, mais avant de partir, il pourrait assurer une transition avant que la Ligue retrouve et nomme un nouveau directeur général. Il y a un nouveau conseil qui est prévu demain à 17h. On verra ce qu'il en ressort. On parle parce que Nicolas Taverneau a demandé à ce que la LFP attaque la FIFA dans ce processus d'obtention des droits, et tout le monde n'est pas d'accord. Donc on verra si ça sera à l'ordre du jour. Mais en tout cas, avec ce départ 9 mois après son arrivée, la création de Ligue 1 Plus, c'est un nouveau coup dur, évidemment, pour une chaîne qui avait bien besoin de ses droits de la Coupe du Monde, puisqu'ils ne vont rien pouvoir proposer cet été avant la reprise de la...
Ouais, ça c'était prévu, ça, on est d'accord. Au début, quand ils prennent... En fait, c'est là, moi, je comprends pas. Alors, vous allez peut-être m'éclairer. Mais quand Ligue 1 Plus se développe, du moins, crée la chaîne, d'accord, ils récupèrent le championnat, ils ont le championnat. Pas de problème. Donc, dans leur tête, au départ, quand ils créent cette chaîne, ils ont pas les droits de la Coupe du Monde.
Non.
D'accord. Donc, ils se mettent dessus parce qu'il y a une possibilité.
Ouais.
Mais c'est une possibilité. Donc, il y a un point d'interrogation parce qu'il peut y avoir de la concurrence, qui est le cas de beIN. Tu vois, donc, t'étais pas.
Non, mais le but premier de Ligue 1 Plus, Jérôme, c'était de conserver tes abonnés, de conserver une offre foot pour pas qu'ils s'en aillent.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand il l'a créé, Ligue 1 Plus, de toute façon, t'avais aucune garantie.
Ils avaient pas cette possibilité.
De ce côté-là. Donc, la logique, c'est que quand tu prends, tu ouvres Ligue 1 Plus pour le championnat, tu sais que l'été prochain, t'as rien à proposer à tes abonnés. Bon, c'est comme ça. Et sous prétexte qu'ils se sont mis, et c'était une bonne idée, certainement, de se mettre sur les droits de la Coupe du Monde, mais vu qu'il y a de la concurrence et qu'ils ont perdu ces droits-là, écoute, pourquoi aujourd'hui tu baisses les armes et tu t'en vas? Alors que bon, j'ai l'impression que ça se passe bien, Ligue 1 Plus, là.
Ah, peut-être que la raison est ailleurs, Jérôme.
Ouais. Elle est où?
Est-ce que ça vous inquiète de le voir partir alors que c'était l'architecte de toute cette chaîne de Ligue 1 Plus?
Peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, je ne suis pas au courant, mais si je regarde un petit peu le contexte de ce qui se passe aujourd'hui par rapport au contexte des droits télévisuels et surtout de l'animosité que peut exercer certains présidents au sein du conseil d'administration de la Ligue 1, on en a vu pas mal d'exemples ces deux dernières années. Quand je vois aussi que un président est également à la tête d'une chaîne de télévision, donc on est jugé parti.
Qui viendrait récupérer les droits de la Coupe du Monde.
Exactement. Donc,
on n'a rien demandé.
Non, mais il n'y a peut-être rien demandé, mais on s'aperçoit que la seule personne qui a pris la tête justement à de Taverneau, c'est le représentant de ce club-là. Donc moi, je veux bien, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on ne peut pas faire une codiffusion? Pourquoi on ne penserait pas éventuellement imaginer une codiffusion avec Bein et avec Ligue 1 Plus?
Ah bah, ils ont pas envie.
Pour conserver, bah justement, donc le choix est simplement fait, il est bien délibéré, c'est qu'on ne veut pas que la chaîne de la Ligue 1 s'en sorte, on ne veut pas que les droits télévisuels puissent s'en sortir sur le foot français. Donc il y a une volonté de nuire. Moi c'est mon avis.
Bah, après Manu, Sport Manu, a une tradition Manu, des compétitions Manu, internationales,
bah, dire que c'est du business.
Non, mais là tu parles que d'un club en fait.
Bah évidemment puisque ce sont eux qui sont détenteurs des droits.
Rassure-moi, il y en a 17 autres. Donc pourquoi quand
mais
François...
les 17 tous ce sont des larbins.
Ah d'accord.
Donc là, c'est je suis désolé de parler comme ça.
Ah, ben non mais d'accord.
Ils ont tous prêté soumission déjà. Tu
ah
vois.
Ben d'accord. Ben
on
bah,
le
si
voit
t'en
depuis t'en longtemps.
Les rares
qui ont osé s'opposer lors du dernier conseil d'administration de l'année dernière, l'été dernier, tous ont été mis à l'amende. Aujourd'hui, ils ont tous revoté pour Monsieur Labrune. Donc on sait très très bien ce qui se passe. On n'a pas besoin d'avoir un décryptage.
D'accord. Bon bah alors donc toi t'expliques que
qu'il y a une personne qui est nuisible pour le foot français.
Il y a un autre élément quand même, c'est dans l'obtention des droits. La FIFA, elle a juste pris la chaîne qui donnait le plus, c'est le cas de Bein. Et c'est important, Bein Sport, et comme elle le fait d'habitude, va avoir les droits de la Coupe du Monde 2026, mais aussi 2030. Donc ça a rassuré certainement la FIFA. Donc au-delà de ça, ils ont choisi peut-être quelque chose de plus sûr.
Alors ça Manu, Manu, tu peux.
Il y a déjà M6 qui va diffuser 54.
C'est pas la première fois que je vois plusieurs chaînes françaises.
Oui, mais t'as toujours un diffuseur gratuit, un diffuseur payant. Le groupe M6 qui aura des chaînes, des matchs et qui va en diffuser 54, je crois. Et Bein Sport va diffuser l'intégralité des rencontres. Bah, c'est le diffuseur payant de la France. T'as pas deux diffuseurs payants pour
retransmettre
une Coupe du Monde. A priori, non.
Mais toi, ce que tu veux dire. Parce que c'est dans les règlements de la FIFA. Ou c'est simplement
dans l'obtention des droits. Oui, c'est comme ça que ça se passe.
Plus d'argent.
Mais Manu, pour être clair sur ce que tu dis, toi, tu penses que.
Pourquoi c'est pas inenvisageable non plus. Ça peut être une possibilité.
Bon, pour l'instant, voilà.
De quoi
une chaîne a envie
d'avoir
des gains
supplémentaires pour la FIFA, peut-être.
Mais pourquoi, tu veux que ça soit ça, sachant que c'est des.
Parce que c'est deux chaînes
qui sont en concurrence, mais Manu.
J'ai bien compris, ça, c'est du business, il n'y a pas de souci, je ne suis pas naïf. Simplement, si on veut vraiment que le foot français s'en sorte, on essaie de trouver des solutions. Là, en l'occurrence, de Taverneau, avec le conseil d'administration,
il
a essayé justement de trouver une solution pour conserver les abonnés et les faire grandir. Et c'est mort-né dans l'œuf.
Que je comprenne.
Mais c'est mort-né. Mais
attends, Jérôme, que je comprenne bien ce que dit Manu.
Avec
attends,
toi,
juste deux secondes. C'est que pour toi, Nasser Al Khelaifi fait ça parce que tu parles de lui depuis tout à l'heure. Et d'une pour permettre à Bein Sport d'avoir des droits, mais surtout pour aussi couler Ligue 1 Plus, c'est ça ton idée?
Bah, sincèrement, quand je vois tout ce qui se passe depuis deux ans, est-ce que vraiment on a le sentiment que Nasser Al Khelaifi veut que les droits télévisuels s'en sortent du côté français?
Il était contre la création de la chaîne de la Ligue.
Mais ça, il s'est pas caché.
Mais il était contre. C'était quoi sa solution?
Bah, il a le droit d'être contre.
Il a peut-être le droit d'être contre, mais il a le droit de proposer une alternative.
Bah, l'alternative,
c'est simplement de dire non, on veut pas s'en sortir, on reste comme ça et on meurt tous ensemble. Lui, il sait très bien que son club n'a pas besoin des droits télévisuels. C'est très bien que ils jouent la Champions League chaque année, ils sont champions d'Europe en titre, dont les revenus commerciaux sont extraordinaires, marketing également. Donc on est très loin de la déliquescence dans laquelle vivent tous les clubs français.
Manu, je pense que tu te trompes.
La réalité économique, elle est là.
Je pense que Nasser Al Khelaifi, il aimerait bien, en effet,
qu'il propose une solution pour sortir le foot français dans du marasme.
Écoute, excuse-moi, mais.
On va dire, il l'a fait avec Bein. Excuse-moi, je vois ce qui s'est passé avec certaines clauses ces dernières années.
Merci à François.
Manu, il payait un match 100 millions d'euros. Arrêtez bêtises quand même.
Allez, on est en retard. Il est 19h.
Donc là, ça ne te dérangeait pas. Il donnait 100 millions d'euros.
Ils ont mis un flingue sur la tombe pour
faire ça.
Mais quand tu dis qu'est-ce qu'il a proposé, il filait 100 millions d'euros pour un match.
C'est quoi sa solution pour sauver le foot français?
Allez, stop. Peut-être qu'il en a, certainement. Moi, je ne suis pas au conseil d'administration.
Je suis pas en réunion.
Stop. Coupez-moi leur micro, s'il vous plaît.
Mais non, mais Manu, va en réunion. Tu nous expliqueras.
On parle de l'Olympique de Marseille et du successeur de Roberto De Zerbi. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.